Vous êtes sur RTL.
Je rappelle les titres avec Amandine, mais évidemment
avec Pascal Pro.
On va rappeler les titres avec Amandine dans une seconde, mais évidemment David est avec nous. Déjà, bonjour David, pour parler de Éric Zemmour. Est-ce que vous êtes surpris par son ascension dans les sondages ?
Bah écoutez, le toujours non-candidat a complètement chamboulé toutes les prévisions possibles sur 2022.
Nous allons en parler notamment avec Benjamin Sportouche qui va rester avec nous quelques minutes encore. Le rappel des titres, Amandine.
Effectivement, il n'est toujours pas officiellement candidat, mais sa cote monte pour la première fois. Donc un sondage donne Éric Zemmour qualifié pour le second tour de la présidentielle à 17% d'intention de vote derrière Emmanuel Macron, mais devant donc Marine Le Pen et les candidats LR, quel que soit le scénario. Sondage Harris Interactive pour le magazine Challenge. Dans l'actualité également, cet hommage rendu ce matin à Bernard Tapie, hommage parisien à l'église Saint-Germain-des-Prés en présence de nombreuses personnalités, dont Brigitte Macron. Demain, hommage à Marseille, chapelle ardente au stade Vélodrome avant les obsèques qui auront lieu vendredi. Notre météo avec vous, Peggy, et c'est du soleil quasiment partout.
Et oui, c'est vrai que ça reste couvert uniquement et pluvieux sur le long des frontières du Nord. Un ciel chargé sur la façade est, entre les Vosges et les Alpes, et quelques pluies, même de la neige au-dessus de 1700 mètres. Et sinon, c'est bien dégagé entre le Roussillon et la région PACA, mais au prix d'un vent fort, des rafales jusqu'à 90 km/h, comme en Corse. Partout ailleurs, sur une large partie ouest du pays, de belles éclaircies dominent, à l'exception de la pointe bretonne où le ciel se couvre au fil des heures, qui annonce l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Les températures, elles sont un peu fraîches sur le nord-est, mais ailleurs, elles sont de saison. 14 à Metz, 16 à Lyon et Cherbourg, 17 à Paris et Limoges, 18 à Nantes, 19 à Toulouse et Marseille, 21 à Perpignan et 23 à Nice.
Et demain, en un mot, encore une belle journée ?
Belle journée, même si c'est vrai qu'on a des nuages sur le nord-ouest et le nord-est demain matin avec quelques faibles pluies, de la grisaille entre les deux, mais ça va se dissiper. Dans la partie sud, le matin, du très beau soleil et les éclaircies au soleil vont gagner l'ensemble du pays, sauf entre la Bretagne et les côtes de la Manche où ça restera couvert avec quelques faibles pluies et des températures stationnaires.
Merci Peggy.
Merci Amandine.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Éric Zemmour, qui ne s'est pas déclaré candidat, serait pour la première fois qualifié au second tour de la présidentielle avec 17 à 18% des intentions de vote. Derrière Emmanuel Macron, 24 à 27% selon un sondage Harris Interactive pour Challenge mercredi. Disons-le, personne n'avait imaginé cela il y a un mois. Et David, qui est avec nous, qui est étudiant à Sciences Po à Aix-en-Provence, j'imagine vous-même que David est surpris.
Écoutez, même moi qui suis... sans aller jusqu'à dire partisan, mais un auditeur et quelqu'un qui lit Éric Zemmour, même moi, qui pourtant adhère à ses propos et à ses idées en la majorité, n'imaginais pas une seule seconde qu'il puisse non seulement avoir 15%, 16%, 17% aujourd'hui, mais en plus être qualifié au second tour devant Marine Le Pen. C'est complètement incroyable. Ouais.
Comment vous expliquez ça ?
Bah, écoutez, moi j'explique ça simplement par parce qu'on dit que Éric Zemmour impose ses thèmes. Et que c'est parce qu'il impose ses thèmes qu'il c'est lui qui met le feu aux poudres et qui du coup embrase toute la chose et monte en imposant ses thèmes. Mais je pense que ces sondages démontrent l'inverse. C'est pas Éric Zemmour qui impose ses thèmes, c'est les Français qui réagissent à ces thèmes favorablement. Et on voit que s'il monte dans les sondages, c'est parce que les thèmes dont il parle et dont tous les autres candidats, même à droite, que ce soit Xavier Bertrand, Marine Le Pen, qui n'en parlaient pas avant, eh ben ils sont dépassés. Et de toute manière, on le voit très bien à ce que et Marine Le Pen et Valérie Pécresse et Xavier Bertrand reprennent le discours d'Éric Zemmour, notamment sur l'immigration, la sécurité. Donc je pense qu'ils ont été la droite a été dépassée par les mesures et les propos d'Éric Zemmour sur ces sujets-là où on pourrait qualifier sa droite.
Je vous interromps, David, parce qu'il y a une image saisissante. En ce moment, le cercueil de Bernard Tapie est en train de sortir de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Il est porté par Jean-Pierre Papin. Il est porté par Jean-Louis Borloo. Il est porté par Stéphane Tapie, que je reconnais, le fils de Bernard Tapie. Et ce cercueil, il est porté par Basile Boli, qui porte le cercueil de celui qui a été son président. C'est une image extrêmement émouvante. Et il y a en ce moment même le public, les personnes, les anonymes qui sont place Saint-Germain-des-Prés et qui sont en train d'applaudir la sortie de ce cercueil. Je ne sais même pas si cette façon de sortir le cercueil de Bernard Tapie était prévue, pour tout vous dire. Claude Lelouch est également là. Jean-Pierre Papin est en pleurs. Jean-Louis Borloo est en pleurs. Jean-Louis Borloo, j'étais à la messe tout à l'heure, qui a été le premier à prendre la parole qui avait fait d'ailleurs un très beau texte sur son ami. Il était très proche, on le sait, il a été l'avocat de Bernard Tapie durant de longues années et il était présent jusque dans les derniers instants de l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Mais Basile Boli, Jean-Pierre Papin et qui étaient présents, Jean-Pierre qui habite en Gironde et qui est venu spécialement pour cet enterrement. Basile Boli lui habite aujourd'hui à Neuilly. Il était présent et également, il y avait beaucoup de monde dans l'église de Saint-Germain, beaucoup de personnalités, dont Nicolas Sarkozy, dont Brigitte Macron, qui représentait le président de la République. Mais cette image, je voulais vous la faire vivre en direct à 13h08. La messe a commencé à 11h et elle s'est prolongée jusqu'à midi et demi. Et puis, entre 12h30 et 13h08, je pense que la famille s'est recueillie de longues minutes avec quelques amis sans doute et le cercueil est sorti à l'instant même et nous vous avons fait vivre ce moment si particulier et si émouvant. Il est 13h08, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On parle d'Éric Zemmour, du sondage qui le place en tête des candidats de droite et qualifié pour le deuxième tour. Mais je vous disais il y a un instant que le cercueil de Bernard Tapie a quitté l'église de Saint-Germain, que la famille et les amis sont sur le parvis de cette église et que le convoi funéraire va repartir dans quelques instants. Ça a été une surprise sans doute et une image extrêmement émouvante de voir ce cercueil porté par Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Jean-Louis Borloo, Claude Lelouch quitter l'église de Saint-Germain-des-Prés. Et en ce moment même, la famille est autour de Dominique Tapie qui, et c'est bien normal, est effondré avec son fils Laurent, avec sa fille Sophie et il y a beaucoup d'amis et beaucoup de familles autour du clan Tapie. Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir au standard. Un sondage donne pour la première fois Éric Zemmour qualifié au second tour de la présidentielle. L'étude Harris Interactive a été publiée dans la matinée.
17% pour Éric Zemmour et 17% désormais. Donc c'est mieux que Marine Le Pen qui chute à 15%. Les dynamiques sont totalement inverses puisque dans un sondage du même institut il y a une semaine à peine, Éric Zemmour était à 13% et Marine Le Pen encore à 16%.
Éric Zemmour deuxième, quel que soit le candidat de la droite, il est encore loin d'Emmanuel Macron. Mais êtes-vous surpris de la montée d'Éric Zemmour? Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué de l'Institut de sondage Harris Interactive, était l'invité de RTL Midi.
Il a été présent matin, midi et soir dans les médias. Et qui plus est, quand vous regardez, à chaque fois qu'il y a eu un thème qui a porté directement ou indirectement autour d'Éric Zemmour, une réaction en chaîne de la part des autres responsables politiques. Vous regardez, au cours de ce dernier mois, l'ensemble du débat présidentiel a tourné autour d'Éric Zemmour ou des propos d'Éric Zemmour.
Imaginez-vous un second tour Emmanuel Macron-Éric Zemmour, 32-10, 3-2-1-0.
Alors on était avec David, je vous ai interrompu. David, vous êtes étudiant à Sciences Po Aix, vous êtes non pas un militant d'ailleurs, mais en tout cas un supporter d'Éric Zemmour.
Écoutez, peut-être supporter, oui. Du
moins, moi, je suis frappé parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui semblent adhérer à ce que dit Éric Zemmour. Et à chaque fois, je leur pose la question, pourquoi plus Éric Zemmour, par exemple, que Marine Le Pen ou plus qu'un candidat des Républicains classiques?
Ce qui est séduisant avec Éric Zemmour, d'abord vis-à-vis de Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen pour moi, en bout de souffle. Elle est en bout de souffle lorsqu'elle a incarné un parti qui a été repris, un parti qui a connu quand même des troubles, des périodes de croissance, et qui surtout, un parti qui a connu la défaite, qui n'a connu que la défaite. Donc si vous voulez, que ce soit son père en 2002, que ce soit ses échecs en 2012, en 2017, pour les jeunes, je pense que ce focus sur la défaite du clan FN ou RN n'est pas de bon présage, et la dynamique Zemmour est séduisante, d'autant qu'il porte un discours nouveau. Et aussi, on peut forcément s'identifier
à lui.
Qu'est-ce
qu'il a de nouveau ? Qu'est-ce qu'il a de nouveau, selon vous ?
Il a de nouveau le fait de n'être pas attaché à un parti politique.
Oui, mais vous dites un discours. Qu'est-ce qu'il a de nouveau dans le discours ? Ça, ce n'est pas le discours, si vous me permettez. Ça, c'est la fonction qu'il a.
Ben, dans son discours, ce qu'il y a de nouveau, c'est le fait de parler directement au peuple, d'énoncer des mesures concrètes, de ne pas faire de pincettes politiques. Vous voyez
tous les scandales. Mais quelles mesures, par exemple ?
Ben, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais que ce soit pour les prénoms, que ce soit pour la question de l'islam et de l'islamisme, sur toutes ces questions-là, où forcément la droite populaire l'attend au tournant, sur là, il n'y a aucune pincette. Donc je pense que c'est pour ça qu'il séduit de plus en plus les électorats populaires à droite. C'est parce que lui, contrairement à des politiques, n'est pas soumis à un certain langage, à un certain vocabulaire. Et il le dit lui-même, je ne suis pas un politique comme les autres, je ne ferai pas de concessions. Donc je pense que c'est cela qui séduit beaucoup chez les jeunes.
Merci David, poser la question. Alors, monsieur le spécialiste, monsieur Sportouche, j'aurais aimé que la classe politique, que ceux qui commandent depuis tant d'années m'annoncent ce phénomène. J'aurais aimé qu'ils me disent à partir du printemps, attention, l'élection n'est pas jouée. Mais qu'entendais-je au printemps? C'est joué, ça sera Macron contre Le Pen.
Vous n'avez pas entendu la même chose, Pascal Pro. Alors où étiez-vous à ce moment-là? Pas du tout. On a toujours dit qu'il pouvait y avoir une surprise, et vous le savez. Et par
alors,
définition,
je vous coupe encore.
Ça ne se mesure pas.
Je vous coupe encore, c'est pas agréable pour vous, mais Nerissa et Mani est en direct de Saint-Germain-des-Prés. Et vous entendez d'ailleurs les cloches de Saint-Germain-des-Prés qui sont en train de sonner. Nerissa, bonjour.
Bonjour.
Nous avons été surpris et émus, disons-le, par la sortie du cercueil de Bernard Tapie porté par ses amis.
Oui, exactement. L'émotion est immense ici quand le cercueil est sorti de l'église porté par ses amis. Vous l'avez dit, par exemple, Boli, Jean-Louis Borloo qui portaient ce cercueil jusqu'à la voiture. Il y avait aussi une grande image de nos confrères de la Provence. Au revoir, Tapie. Ici, on voit aussi Stéphane Tapie, son fils, qui vient saluer la foule, notamment les nombreux supporters de l'OM qui sont présents parmi ces centaines d'anonymes. Il y a aussi Sophie Tapie qui vient saluer la foule. L'émotion est grande. Le cercueil a pris place dans le corbillard. Et puis, les personnalités sortent petit à petit de l'église.
Il y avait beaucoup de monde, hein. J'étais tout à l'heure présent dans l'église de Saint-Germain. Chantal Latsou, je le disais, a pris la parole. Jean-Louis Borloo a pris également la parole. Et ses petits-enfants ont pris la parole. Ce sont les personnes qui ont pris la parole, plus un pasteur également, avec lequel Bernard Tapie priait tous les soirs à la même heure. C'était évidemment émouvant d'entendre tout cela. Et c'était également émouvant de voir le nombre d'anonymes. Et Nerissa, vous le constatez en plein Saint-Germain-des-Prés, vous avez beaucoup de gens qui sont venus témoigner de leur affection pour Bernard Tapie au moment où cette cérémonie est en train de s'achever, Nerissa.
Oui, exactement, de nombreux anonymes. J'ai même à côté de moi un anonyme qui a pu assister à la messe. Il est supporter de l'OM. Et il était là au premier rang avec son écharpe tout à l'heure, mais on l'a appelé justement pour rentrer dans l'église. Vous avez encore les larmes aux yeux, je le vois, vous êtes très ému. Comment c'était?
Écoutez, il y a eu un discours magnifique de Jean-Louis Borloo qui a longuement parlé de Tapie. On sentait vraiment que c'était des êtres proches, quoi, que c'était des amis. Après, il y a Chantal Latsou aussi qui a parlé de lui d'une manière très roborative. Puis il y a eu la famille. Et puis c'était émouvant de voir que des gens comme Claude Lelouch, comme Jean-Louis Borloo, enfin, j'ai pas vu tout le monde.
Ça vous a fait quoi, vous, d'être présent aux côtés d'une personne que vous admirez, du coup?
Moi, j'estime que c'est une forme de gratitude. Je veux dire, il nous a tellement donné de joie, à nous, les Marseillais, qu'évidemment, moi, je sais pas, quand vous aimez quelqu'un, c'est une tradition d'aller à son enterrement, quoi, si vous voulez. Donc il y avait ça, puis je crois que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui va au-delà du monde du football, parce que...
On le voit, ça touche, il n'y a pas que des supporters parmi nous.
Bon, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup des gens de l'époque Mitterrand qui étaient là. Il y avait plus de gens de droite que de gens de gauche, me semble-t-il. Voilà, il y avait des absents, mais peut-être qu'ils vont se rattraper à Marseille, je ne sais pas.
Ben merci, vous aussi serez à Marseille?
Peut-être. Je vais peut-être faire le... Parce que je pense qu'à Marseille, ça va.
L'émotion sera aussi grande.
Eh bien,
voilà,
merci.
Vous l'entendez, l'émotion est très grande ici.
Merci Nerissa et Mani. Et c'est vrai que ce témoignage nous a fait sourire. Il y avait plus de gens de droite que de gens de gauche dans l'église. C'est une vérité. Il y avait beaucoup de représentants. Nicolas Sarkozy était là. Je n'ai pas eu, par exemple, François Hollande, l'ancien président de la République. On va marquer une pause. Et on est donc avec Monsieur Sportouche. Et je lui disais, donc je vais lui reposer la question dans une seconde. Personne n'avait vu venir le phénomène Zemmour. Personne. Donc ça, c'est intéressant. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Benjamin Sportouche, le chef du service politique de RTL. Expliquez-nous ce phénomène et pourquoi est-ce que personne ne l'a vu venir?
Alors par définition, je vous disais, un phénomène, on ne le voit pas venir. Ce qui a été dit depuis plusieurs mois, c'est quelle sera la surprise. À chaque fois, dans une élection, on se dit, est-ce qu'il va y avoir une surprise? Et c'est vrai que les Français, on le voyait dans les sondages, Pascal, ne voulaient pas de ce duo de tête. Ils voulaient le bousculer. Ils ont trouvé en Éric Zemmour, pour partie, une manière de bousculer ce duo de tête en disant, voilà, nous n'en voulons pas. Et on ne savait pas comment ça allait évoluer, comment ça allait être bousculé. Ben voilà ce troisième homme, Éric Zemmour, qui arrive et qui, pour l'instant, en effet, dans ce sondage, dans cet unique sondage, précisons-le, passe la barre du deuxième tour, du premier tour, et qu'il est devant Marine Le Pen. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire, comment bousculer ce duo tête. Deuxième point, le vide chez les Républicains, pour l'instant. On ne peut pas le nier, on ne sait pas qui sera le candidat des Républicains. Donc, vous avez toute une partie de l'électorat qui est orphelin. Alors, je ne dis pas qu'ils vont revenir comme un seul homme au candidat qui sera désigné par les Républicains, mais de fait, la nature, vous le savez, et c'est un poncif horaire du vide, et donc, elle peut, pour partie, ils peuvent se retourner vers Éric Zemmour. Et enfin, juste quand même une chose, et revenons-y, sur ces sondages, il faut les prendre, bien évidemment, avec toujours beaucoup de précautions. Vous avez été le premier, souvenez-vous, Pascal, à ce micro, il y a quelques mois au moins, de régional, où on disait, on avait annoncé, souvenez-vous, la vague Marine Le Pen, avec 6 régions qui pouvaient être conquises. Ça n'a pas été le cas. Donc, il faut être très prudent. On a un électorat de plus en plus volatile qui se décide aussi très tardivement. Et on verra là que ça peut être le cas. 52% des Français ne se sentent pas encore dans la campagne électorale. Et vous aviez ici même William Galibert, souvenez-vous, il y a 2 jours, sur ce formidable reportage à Emerin, dans le nord de la France, qui sera un peu notre ville test, notre ville baromètre. Et on voyait à quel point les gens ne sont pas encore complètement dans la campagne.
Muriel, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Vous avez écouté Benjamin Sportouche. Votre sentiment sur cette percée dans les sondages d'Éric Zemmour?
Alors, déjà, je pense, mon mari me faisait remarquer quelque chose, et je pense qu'il a raison. Zemmour mène une campagne à la Trump, c'est-à-dire des punchlines qui font réagir, et qui font réagir les médias, qui font réagir le monde politique, sur des sujets finalement qui sont racoleurs, démagos. Donc,
Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui est racoleur?
En fait, il va très loin dans ses propos, notamment sur l'immigration, l'islam et l'islamisme. Vous savez, je déjeunais il y a 5 minutes avec une amie qui s'appelle Farouja, qui est chef d'entreprise, son mari est policier, ses enfants sont tous étudiants, font des belles études. Je veux dire, elle est musulmane, c'est pas une terroriste.
Non,
c'est une femme française qui vit dans la société française.
Mais vous avez parfaitement raison, mais c'est pas ce qu'il dit. Il fait une distinction entre l'islam, l'islamisme et les musulmans.
Vous trouvez qu'il fait une distinction, vous?
Entre l'islam et l'islamisme, il n'en fait pas. Il considère que l'islam, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, que les textes de l'islam, au fond, l'islamisme et qu'il n'y a pas forcément de différence. En revanche, ce qu'il dit, c'est que tous les musulmans n'appliquent pas à la lettre ce qui est écrit dans l'islam.
C'est une hérésie que de dire ça. Je ne vais pas refaire le débat sur ce sujet, mais l'islam, c'est comme la religion catholique et toutes les religions. Vous avez toujours des intégristes qui vont détourner les textes.
Bien sûr,
qui vont
mais changer vous avez parfaitement raison.
Et c'est encore plus difficile avec le Coran, dans la mesure où un mot peut avoir 5, 6, 10, 15 significations différentes. Donc c'est très facile comme sujet central que je dis qu'il est racoleur. Il va sur des thèmes qui titille une partie de la population française qui reste minoritaire, Dieu merci. Mais au-delà de tout ça, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucun leader politique des partis dits traditionnels qui prend la place.
Vous avez Emmanuel Macron quand même.
Oui, mais je parle des autres, puisque aujourd'hui on parle d'Emmanuel Macron contre Zemmour. C'est les autres qui manquent à l'appel.
Jean-Luc Mélenchon, c'est un leader important. Lors de la dernière élection présidentielle, il a été très présent et il est très offensif contre Éric Zemmour.
C'est aussi un homme des extrêmes. Moi, je suis quelqu'un avec des opinions politiques, on va dire, plutôt au centre.
Pourquoi Emmanuel Macron, au fond, ne convient-il pas à votre demande?
Parce que je pense qu'il est trop éloigné des vraies préoccupations que l'on rencontre tous les jours, et que je pense surtout, c'est un homme brillantissime, mais qui n'est pas en capacité aujourd'hui de se mettre à la portée les Français. Mais on a l'impression qu'ils ont juste
Muriel, et vous avez raison dans juste précision, parce qu'on parle de phénomène Zemmour. Ce qui est intéressant, et qui finalement passe au second plan, c'est quand même le score du président de la République. Là, il est en tête. Il y a encore un an et demi, on disait qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas faire un second quinquennat, où il y a deux ans, au moment des Gilets jaunes, on disait c'est indéterminé. Donc, c'est pas rien quand même. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu des sondages donnant un président sortant en capacité de remporter une nouvelle élection. Rappelez-vous, à cette même époque, à ce moment-là, en 2016, on se demandait si François Hollande allait se présenter. Eh bien, en décembre, il disait « je ne peux pas, je ne suis pas en capacité politique ». Donc, c'est pas rien aussi. Voilà aussi un autre phénomène qui est en train de se produire.
Une pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Philippe est avec nous. Bonjour Philippe. Philippe ?
Oui, bonjour.
Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que vous êtes un électeur de Zemmour potentiel s'il se présente ? Parce que je rappelle qu'il n'est pas candidat.
Plutôt me mettre une balle.
Ah, bon. Voilà. Donc vous ne l'aimez pas du tout.
N'allez pas jusque-là. Alors, quand même.
Déjà, votre intervenant qui est Sciences Po, c'est ça ?
Oui, David.
Alors, qui dit que Zemmour a des nouvelles idées, des nouveaux discours, machin, c'est hyper risible et ça fait peur quand on est en Sciences Po. Parce qu'en fait, en gros, il ressort le même discours que le père Le Pen dans les années 80, machin. Enfin, voilà. Il a aucune carrière politique. Le gars, il a fait son truc contre Mélenchon. Quand on lui parle d'écologie, il est incapable de répondre. Tout ce qu'il dit, c'est « je ne suis pas un expert », alors que tout le monde sait que le réchauffement climatique est un fait.
Ah non, mais personne ne conteste le réchauffement climatique.
En revanche,
ce qu'on conteste, parfois, c'est les raisons du réchauffement climatique.
Mais attendez.
Le réchauffement climatique, il est là, c'est factuel.
Ceux qui pensent que l'homme, en gros, n'est pas responsable à 75% du réchauffement climatique, pour moi, c'est un climato-sceptique.
Voilà. Ça, c'est clair.
Maintenant, il est homme politique. Enfin, il veut rentrer dans la politique. Il a apporté aucune solution quand on lui a parlé, par exemple, de l'écologie. Voilà.
Parce qu'il considère que ce n'est pas le sujet essentiel. Il considère que le sujet essentiel, c'est un sujet de société.
C'est un Donald Trump français, le gars, oui. Il va faire...
Donald Trump, vous savez Donald Trump...
Eh ben, c'est un climato-sceptique.
Oui, mais Donald Trump, d'abord, il a été élu. Donald Trump. Bah, et puis, ça sera intéressant, à la fin de la fin, de voir les bilans des uns et des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que Donald Trump, tout n'est pas acheté. Par exemple, le vaccin... si vous l'avez aujourd'hui, peut-être que Donald Trump y est pour quelque chose.
Je parle de l'écologie.
Oui, Donald, j'ai entendu que Donald Trump ne restera pas dans l'histoire pour ce qu'il a fait pour l'écologie. Ça, je suis bien d'accord avec vous.
Le gars, il est mais sur toutes les chaînes de télé, machin.
Ah oui.
Voilà. Mais ça s'entend, ça, Pascal, c'est vrai.
Benjamin Sportouche.
Bon, il faut ici être aussi lucide que pour l'instant, les thèmes qui sont ceux de la présidentielle n'ont pas tous été abordés par Éric Zemmour et que l'entrée dans l'atmosphère n'est pas encore faite. Quelle est cette entrée dans l'atmosphère ? C'est-à-dire la déclaration de candidature. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Que deux candidats, pour l'instant, sont en tête des sondages alors qu'ils ne sont pas candidats. Oui, l'entrée en campagne, c'est un moment pivot. Ça peut être vraiment le moment où on demande des comptes, où là, il va y avoir des programmes qui vont s'établir. Donc, il faut aussi voir, à l'aune de ce moment-là, comment ça va se décanter, Pascal. Et vous parliez de Donald Trump, je voyais votre enthousiasme, mais attention.
Oh, vous êtes gonflé, mon enthousiasme. Alors, si vous me traitez de Trumpiste, alors là... Non. Je vous ai dit simplement que pour l'écologie, il ne restera pas dans l'histoire, mais que tout n'est pas acheté dans Donald Trump.
Oui, non, mais d'accord, mais les Américains n'en ont pas voulu, et vous l'avez bien vu, il a été quand même...
Je ne vous dis pas ça.
Mais c'est intéressant de voir exactement ce que vous dites, que Éric Zemmour s'inspire de Donald Trump. Est-ce que les Français, ils l'ont revendu
complètement ? Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il s'inspire de Trump,
Il le dit lui-même. Il se revendique. Alors, est-ce que vous êtes mieux informé alors sur Éric Zemmour ?
Non, mais ce n'est pas les mêmes types de personnalités. Il y en a un qui est un intellectuel cultivé, l'autre, c'était. Il n'avait pas lu un roman de sa vie et il était milliardaire. Ce n'est pas les mêmes types de personnalités quand même.
Mais vous êtes in love, Pascal.
C'est-à-dire ?
Avec Éric Zemmour.
Je ne suis pas.
mais c'est lui-même qui le dit. Non, mais il dit lui-même Éric Zemmour, c'est. Donald Trump, c'est mon modèle. Il fait un livre. Avec une jaquette qui est celle de la campagne de Donald Trump. Donc oui, c'est son modèle. Et pour l'instant, est-ce que les Français vont trouver dans cette ressemblance-là quelque chose qui peut les convaincre de voter pour lui ? C'est plus compliqué, c'est plus délicat parce qu'on n'est pas sur le même terrain.
Philippe, au-delà de l'écologie, est-ce qu'il y a d'autres domaines qui vous...
ça m'a quand même fait.
Vous détestez chez Trump, chez Éric Zemmour.
Ah oui, oui, j'ai continué, mais ça m'a bien fait sourire quand même le propos de votre collègue avec votre pro-Trumpiste quand on est sur le Fox News à la française.
Ah bah non, mais vous avez, écoutez, la parole est libre, c'est ça l'avantage.
Alors, mais Monsieur Zemmour veut, enfin Monsieur Zemmour dit qu'il va y avoir une guerre civile.
Non, voilà. Il dit pas ça non plus, mais bon.
Ah bah pardon, excusez-moi. Bah,
il dit qu'elle est là déjà la guerre civile. Il dit que la guerre civile alors, est là lorsqu'on égorge un professeur.
Alors il y a pas de guerre civile parce que je pense qu'il faut qu'il revoie la définition quand même, hein, d'accord. Déjà d'une, par contre de deux, s'il passe, je pense qu'il y en aura une de guerre civile.
Ah bah c'est la démocratie. Alors ça c'est drôle ce que vous dites. Par définition, s'il passe, c'est que la démocratie a parlé.
Mais je suis désolé monsieur, la démocratie aujourd'hui ne fonctionne plus. La démocratie, la démocratie représentative, c'est terminé. Donc en fait les gens se sentent plus...
Mais Philippe, vous voulez, c'est quoi votre système ?
La majorité des gens ne vont plus voter.
Mais dites pas mais dites pas. Alors, Philippe.
25%.
Non mais Philippe.
Monsieur Macron est passé avec 25%.
Philippe.
Du nombre d'électeurs.
Non mais Philippe, je peux pas vous laisser dire. Pardonnez-moi n'importe quoi. Vous dites pas que la majorité des gens n'ont pas élu Emmanuel Macron. La dernière fois, on a eu un taux de participation de
presque 80%. Bon, très élevé.
Philippe, 80% de participation.
D'accord. Et les élections en général, c'est combien la part d'abstention ? Rappelez-moi, parce qu'ils sont tous en panique.
Là, on parle de la présidentielle. Moi, je vous parle que de la présidentielle.
Mais vous croyez que les gens sont dupes au bout d'un moment ou pas ?
Mais je n'en sais rien. Vous dites, Philippe.
Le Pen Macron, ils n'en veulent pas. De où on va vouloir un Zemmour Macron, alors que Zemmour est 10 000 fois plus dangereux que la fille Le Pen.
Mais c'est possible. Tout ce que vous dites est possible. Mais ce que vous ne pouvez pas, en revanche, dire que la démocratie représentative. Faut que vous m'expliquiez quel est votre système, si c'est pas la démocratie représentative. C'est quoi votre système ?
Pardon ?
Si c'est quoi votre système si on ne fait pas la démocratie représentative ?
La démocratie participative. J'en ai déjà parlé à ce sujet avec vous par rapport à la Suisse, par exemple, où on interroge les gens sur telle ou telle chose.
Ah ouais, vous voulez des référendums tous les matins ?
Depuis tous les matins. Il y a une différence entre tous les matins et puis 2005, on n'en a pas parce que comme on a voté non et qu'on a frustré toutes les personnes du haut, on nous a
donc il faut interroger les Français tous les jours sur beaucoup de sujets. Mais pourquoi pas d'ailleurs ?
Attendez. On va peut-être pas aller jusqu'en Suisse en demandant s'il faut mettre des cloches aux vaches ou pas. On est d'accord. Par contre, je pense qu'il y a des sujets de société qui demandent à ce que les Français...
D'accord. Mais j'entends ce que vous dites. Je trouve que c'est plutôt... ça s'entend. On marque une pause.
Avant d'y aller. Bon.
Mais pourquoi vous y allez à 13h? À chaque fois que vous venez, vous voulez partir. Studio que vous êtes déjà dehors. Vous restez avec nous. Il est 13h37. C'est une émission passionnante. Ce que dit Philippe est très intéressant.
Juste
après la pause, Philippe dit une chose très juste. Il dit il faut plus interroger les Français sur beaucoup de sujets. Et bien ça s'entend. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
J'ai réussi à garder quelques minutes Benjamin Sportouche.
Alors qu'il a très faim quand même.
Il a très très faim, mais il nous a dit j'ai des choses à faire. Il doit aller chez Prise Unique peut-être faire des courses. Je ne sais pas. Ou aux Dames de France. Vous vous souvenez de
Prise Unique ?
Ah oui, chez Félix Potin, vieilles... vous allez nous dire Félix
Potin. Non mais c'est des vieilles... Là on ne fait pas de pub, c'est des vieilles enseignes. Bon, votre présence est indispensable pour les auditeurs, cher ami. Donc parce que vous êtes remarquable et brillant.
Donc on va le garder jusqu'au bout.
Mais notre ami Tessier veut dire des choses.
Oui, du côté des macronistes, est-ce que l'on commence à s'inquiéter de cette montée d'Éric Zemmour dans les sondages ? Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a répondu ce matin sur RTL à la question de Patrick, auditeur du Morbihan.
Monsieur Zemmour, fait-il peur à notre gouvernement ? Fait-il peur à notre président ?
C'est non. Éric Zemmour ne nous fait pas peur. Éric Zemmour ne me fait pas peur.
Et avec de telles intentions de vote, Éric Zemmour doit-il déclarer sa candidature ? A-t-il intérêt à le faire rapidement ? Écoutez ce qu'il disait Alba Ventura sur RTL le 14 septembre dernier.
C'est moi qui choisis le moment.
Vous êtes en pleine ambiguïté ?
Ben oui. Et donc je peux faire durer ça tant que c'est mon intérêt.
Éric Zemmour, stop ou encore 32-10, 3-2-1-0.
Bon, on finit avec Philippe. Philippe qui est un excellent intervenant parce qu'il met les pieds dans le plat. Donc lui, il n'est plus content de la démocratie représentative. Je pense qu'il faut un mix parce qu'autrement, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Mais il dit une chose qui est juste. Par exemple, il faut interroger les gens plus régulièrement par des mini-référendums. Alors Philippe, quelle est par exemple la question essentielle ou une ou deux questions qui vous paraît importante sur lesquelles il faudrait interroger le peuple très rapidement ?
Très rapidement, là ?
Les deux questions, par exemple, vous me dites démocratie participative. Donc je vous dis quelle est la question qu'il faut poser au peuple dans les 6 mois ?
Le changement de la Ve République.
D'accord.
Voilà.
Ça, c'est une question. Mais alors, si le peuple dit, si le peuple dit, on garde la cinquième, vous êtes d'accord, vous acceptez la décision du peuple?
Ah bah, à partir du moment où le peuple a le droit de s'exprimer.
D'accord.
Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, la Ve République, elle est plus faite pour ce qui se passe aujourd'hui. La Ve République, elle a été taillée pour De Gaulle.
Oui, d'accord. Et quelle est l'autre question qui vous paraît intéressante?
Je pense que aussi, s'il y a une montée du nationalisme, c'est parce qu'il manque de proportionnel. C'est-à-dire qu'en fait, y a très peu de temps, en fait, comment dire, qu'il y a des députés frontistes. Et je pense qu'en fait, le fait qu'on les empêche de parler, entre guillemets, ça les renforce. Là, tout à l'heure, vous parliez de Zemmour, etc., comment il a fait pour monter. Allez sur Facebook, réseau numéro 1 de l'extrême droite en France. Vous allez voir les trucs qui apparaissent, c'est ouf. Voilà.
Bon, ben merci pour, en tout cas, de cette intervention. Christian est avec nous. Bonjour Christian, dans le Morbihan.
Bonjour Monsieur Pro.
Comment allez-vous Christian?
Eh bien, je vais très bien.
Quelle est votre analyse de la situation?
Avec une grande attention, tout ce que vous avez raconté avec vos auditeurs. Moi, je n'ai pas du tout le même avis. Moi, je dis que Monsieur Zemmour, si on parle cru, c'est un fou la merde.
Je vous confirme que vous parlez cru, mais encore.
Je parle cru, oui. Je vais vous dire pourquoi, maintenant je vais donner les raisons. C'est un gars qui n'a jamais été ministre, qui n'a jamais fait de politique, qui n'a jamais de machin. Il sort du trou, le loup sort du bois. Mais il n'a aucun programme, il ne propose rien.
Mais oui, mais une fois que vous avez dit ça, pourquoi ça marche?
On ne parle pas du temps de... Comment?
Pourquoi ça marche alors?
Ben, ça marche parce que les médias s'en sont mêlés, et les médias, ben, ils en font aussi leur beurre. Tout le monde fait sa petite tambouille. Ça intéresse tout le monde, la publicité de Zemmour, et voilà, c'est tout. Mais s'il y avait moins de médias qui en parlaient, ben, Zemmour, il vaudrait pas cher.
Vous pensez que c'est les médias? Vous pensez que c'est les médias qui ont fait la cote de...
Pour quelque chose, oui.
Alors, oui. Benjamin, ça, quand on est journaliste, toute la journée, on entend ça. Moi, vous connaissez ma position. Les médias ne font rien. Ils sont toujours à la ramasse. Ils peuvent en amplifier. Quand je dis à la ramasse, d'ailleurs, c'est pas élégant, mais ils sont toujours... ils accompagnent. Et je prends des exemples. C'est-à-dire qu'en 2005, les médias, ils veulent tous que le oui l'emporte, c'est le non qu'il l'emporte. Les médias, ils choisissent Balladur, et puis c'est Chirac qui gagne. Et puis les médias, ils choisissent Giscard en 81, et puis c'est Mitterrand qui passe. On a comme ça 50 000 exemples. Bon. En revanche, c'est un reproche qu'on nous fait toujours.
Oui, c'est vrai. Alors, non, mais je suis là, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec vous sur le fait de savoir si nous sommes vraiment prescripteurs ou pas. Est-ce que les médias que nous sommes, il faut quand même qu'on reste très humble, avons-nous ce même rôle que nous avions il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années? En effet, je pense que notre rôle est à relativiser au regard des réseaux sociaux. C'est plutôt sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, que les choses beaucoup se font. Donc, il faut relativiser ce que nous représentons. Pour autant, il faut être vigilant sur l'information que nous donnons, il faut qu'elle soit juste, évaluée, et encore une fois, avec du recul, notamment sur ces sondages qui, aujourd'hui, sont une photo à un instant T et qui ne sont en rien un pronostic de l'élection. Ce que je voulais vous dire, et je pense que c'est important de voir comment ça va jouer, c'est la participation. La participation a toujours été élevée à une élection présidentielle. Et bien, peut-être faisons le pari qu'elle soit encore plus élevée, parce que quelqu'un comme Éric Zemmour, et bien on le voit, électrise le débat, clive, et le clivage mobilise. Donc on va peut-être avoir des gens qui étaient abstentionnistes. Aux dernières régionales, l'abstention a été très forte, et qui vont venir voter à cette élection. Et là, il peut y avoir un basculement dans un sens, ça peut avantager le sortant ou au contraire et pénaliser Emmanuel Macron. Et quand je disais qu'Emmanuel Macron était en tête, ça aussi, quand il va être lui candidat officiellement, on va lui demander des comptes, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, parce que clairement, en tant que président, il a une sorte de barrière.
Christian, un mot à rajouter?
Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que, comme vous dites, les sondages se sont trompés à beaucoup de fois. Mais j'espère que les sondages vont encore se tromper. Parce qu'il n'a aucun programme. Il ne parle pas des retraites, il ne parle pas du temps de travail, il ne parle pas du SMIC, il ne parle pas...
C'est-à-dire qu'il n'est pas candidat pour le moment. Pour le moment, il n'est que dans le constat. Et que dans le diagnostic, on imagine
Pascal,
que s'il...
Sur certaines choses, il fait déjà des propositions en termes d'immigration et de laïcité sur les thèmes, sur ses thèmes de prédilection et ceux qu'il met en avant, il fait des propositions.
Christian.
Oui, mais il n'y a que là, là-dessus. L'immigration, c'est un problème, bien sûr que c'est un problème. C'est un problème qui n'a jamais été bien réglé. L'immigration, elle aurait pu être réglée bien mieux que ça.
Ben merci. Je sais pas quoi. Tiens, c'est intéressant ce que vous dites. Comment elle aurait pu être réglée, l'immigration, bien mieux que cela?
Comment elle aurait pu être réglée? Eh ben, moi, je vais vous dire.
Oui, ça m'intéresse.
Quand le général de Gaulle a fait venir les étrangers, parce que à Paris, c'était à Paris que ça se passait, moi, je me rappelle que les boueux voulaient plus travailler parce qu'ils n'étaient pas assez payés, parce que si, parce que ça. Il a fait venir les étrangers ont remplacé les Parisiens, enfin les ouvriers qui ramassaient les poubelles à Paris, et quand les ouvriers se sont aperçus que ben, finalement ils gagnaient si bien leur vie, ben, ils sont venus. Et les autres, ils se sont retrouvés un petit peu, voilà, bazouillés dans la nature. C'est pas ce qu'on aurait dû faire. Pour prendre un étranger en France, il aurait fallu déjà avoir des conditions, mettre des conditions. Dire, monsieur, vous voulez venir en France? Très bien. Est-ce que vous parlez le français? Est-ce que vous avez de l'argent pour vivre pendant un certain temps en France? Est-ce que vous avez un logement? Est-ce que vous avez un travail? Tout ça, ça n'a pas été contrôlé. Ça a été le grand foutoir.
Et peut-être que le regroupement familial, avec le recul, n'était pas non plus une des mesures les plus intéressantes. Merci Christian, merci. Alors du coup, notre ami Sportouche s'en va. Est-ce qu'Éric Zemmour, parce qu'il n'est toujours pas venu au grand jury?
Mais il ne va pas tarder.
Mais il vient quand?
Bah, écoutez, on est en discussion parce qu'il est très pris, hein, le monsieur, il faut être clair. Ce week-end, par exemple, il est en Corse. Donc nous sommes en train de trouver une date, bien sûr, pour qu'il puisse s'exprimer. Mais on l'entend déjà, soyons clairs, dans beaucoup de médias. Et nous le suivons aussi, sa pré-campagne. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu un ovni, il faut être clair. Il nous dit qu'il n'est pas candidat, mais il se comporte quand même comme un candidat à l'Élysée.
Merci Benjamin Sportouche, c'est toujours un plaisir que vous nous accompagniez dans cette heure 30.
À très bientôt.
Vous connaissez désormais Olivier, qui est une de nos vedettes de cette heure 30.
Bonjour.
Monsieur Boubouk, c'est tel que l'a baptisé. Laurent Tessier, je trouve à chaque fois que c'est pas très élégant de se faire appeler Monsieur
Boubouk.
C'est
sympa, Boubouk. C'est sympa. J'ai l'impression que Benjamin Sportouche part quand j'arrive, Pascal.
Mais
je sais pas
non,
si c'est lié ou.
Je ne sais. Je ne sais, monsieur. Que nous dit-on sur ces fameux réseaux sociaux dont Philippe nous disait que c'était là que ça se passait aujourd'hui?
Carole nous écrit, les sondages ne sont pas les urnes, attention, même si la montée de Zemmour est bel et bien là. Philbert nous dit, j'ai des doutes quant à la fiabilité de Harris Interactive. Je n'ai jamais été sondé, je ne connais personne autour de moi qui l'a été. Et on conclut avec Elisabeth, si le duel final est Macron-Zemmour, elle nous dit ne pas savoir pour qui elle va voter.
Bah écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'on marque une nouvelle pause? Oui, je salue Damien.
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde.
Bonjour cher Damien. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier.
Éric Zemmour commence-t-il à inquiéter dans les rangs du gouvernement? 17% d'intention de vote selon un dernier sondage Harris Interactive qualifié au second tour de la présidentielle devant Marine Le Pen. Mais faut-il ouvrir les yeux au sujet du polémiste? C'est la demande du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, hier soir chez nos confrères de BFM.
Raciste, négationniste, condamné par la justice de notre pays pour des faits d'incitation à la haine raciale. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'espère que l'on va ouvrir les yeux. Pour le moment, M. Zemmour, il est polémiste, de talent, journaliste, écrivain. Il se cache derrière ses multiples casquettes et il n'entend pas, pour le moment, se déclarer à la présidence de la République. Parce que s'il le fait, qu'est-ce que vous lui direz? Quel est votre programme?
Éric Zemmour fait-il peur? 32-10, 3-2-1-0.
Monsieur Richard. Jean-Alphonse, de
bonjour,
son prénom.
Bonjour, monsieur Pro Pascal.
Tous les jours, vous venez ici pour nous annoncer le programme de l'heure du crime. Mais est-ce qu'il y a eu des crimes à l'Élysée?
Alors non, il y a eu des crimes à l'Élysée, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, sur la Ve République, il y a un suicide célèbre à l'Élysée, celui de François de Grossouvre, sous François Mitterrand, le patron des chasses présidentielles, qui s'était mis une balle dans la tête dans son bureau. Non, je n'en vois pas comme ça.
Vous pourriez peut-être nous faire également une heure du crime sur des présidents de la République ou des chefs d'État qui ont été assassinés en France.
Oui, en France, oui, mais c'est vieux.
Oui.
Mais en France, alors il y a peut-être un suicide à l'Élysée, il faudrait contrôler d'un garde républicain, mais j'en suis pas sûr. Bon, il faudrait regarder ça.
Je ne doute pas que vous puissiez, avant le mois d'avril et le printemps, imaginer une heure de crime autour de ce sujet-là.
Mais pourquoi pas? C'est une très bonne idée, c'est plus romanesque qu'autre chose, mais moi je suis prêt à y aller, évidemment. Mais nous on s'appuie quand même sur des faits, comme l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. On va revenir aujourd'hui sur l'affaire Magali Blandin. C'était au début de l'année, une femme qui disparaît. Son mari va très vite avouer le crime. Alors vous allez me dire, comme ça, c'est le crime de... évidemment d'un homme violent, qui s'ajoute à la litanie insupportable des crimes qui sont perpétrés contre les épouses par des maris violents, par des maris possessifs. Eh bien là, c'est pas tout à fait le... Enfin, c'est le cas, mais c'est au-delà de ça. Il y a un complot familial qui va se dessiner. Toute une famille, tout un montage, tout un scénario qui était écrit à l'avance pour ce crime, qui lui donne aujourd'hui une dimension un petit peu hors du commun. Histoire toujours en cours, hein, puisqu'il y aura encore des auditions et des confrontations qui vont se tenir, je crois, la semaine prochaine.
Paul Doumer a été assassiné en 1932. Oui, il était chef de l'État français, et Sadi Carnot également, oui, mais, chef mais, de l'État
oui,
français.
Oui, oui, non, mais vous me dites à l'Élysée déjà.
Oui, oui, non, mais c'est pour ça, je vous ai dit une heure du crime à consacrée oui, bien sûr, mais à la politique.
Oui, dans l'histoire, oui, bien sûr.
L'affaire Boulin, par exemple, est
on,
une.
On a fait l'affaire Boulin dans l'heure du crime, on a fait De Breuil dans l'heure du crime, on fera Fontanet dans l'heure du crime. On traite ces grands crimes politiques. Qui sentent le soufre d'ailleurs, hein, très souvent. Il y a une dimension un peu diabolique derrière tout ça.
Merci Jean-Alphonse.
À tout à l'heure.
On va marquer une pause. On sera avec Eric tout à l'heure peut-être, qui nous parlera de Eric Zemmour précisément. Il habite dans le Puy-de-Dôme. La montée de Zemmour, c'est juste le retour de la vraie droite, nous dit-il. Il nous expliquera ce qu'est la vraie droite. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute.
Il est quasiment 14h. Le flash avec Sébastien Rouxel.
Bonjour à tous et pour commencer, on prend la direction de Saint-Germain-des-Prés à Paris où l'on vous retrouve, Nerissa Emani. Bonjour.
Bonjour.
La cérémonie d'hommage à Bernard Tapie s'est achevée à la mi-journée. L'émotion était particulièrement grande peu après 13h lorsque son cercueil est ressorti de l'église.
Oui, effectivement, un moment très fort attendu par les centaines d'anonymes venus rendre hommage à Bernard Tapie. Le cercueil est sorti de l'église porté par Jean-Pierre Papin, Claude Lelouch, Stéphane Tapie, Basile Boli ou encore Jean-Louis Borloo, des proches de Tapie qui se sont tombés dans les bras en larmes, le tout sous les applaudissements. Un moment suspendu dans le temps pour les nombreux supporters de l'Olympique de Marseille présents, drapeau bleu et blanc et écharpe à la main. Ces admirateurs qui ont scandé le nom de Bernard Tapie jusqu'à ce que le corbillard s'éloigne. Alors, au moment où je vous parle, il ne reste plus personne sur le parvis de l'église, mais beaucoup de ses admirateurs ont prévu de se rendre à Marseille pour un prochain hommage.
Merci beaucoup Nerissa Emani. Une chapelle ardente sera installée demain au stade Vélodrome. Les obsèques de Bernard Tapie seront célébrées vendredi dans la cité phocéenne à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Il n'est toujours pas officiellement candidat, mais sa dynamique dans les enquêtes d'opinion du moins se confirme. Pour la première fois, un sondage donne Éric Zemmour qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. 17% des intentions de vote. Il devance de 2 points Marine Le Pen, mais reste loin derrière Emmanuel Macron à 24% selon cette enquête d'Aris Interactive pour le magazine Challenge. Les victimes du Bataclan à la barre cet après-midi, elles vont pouvoir témoigner pour la première fois au procès des attentats du 13 novembre. 90 personnes ont été tuées dans cette salle de spectacle en 2015. Il a prononcé ce mot à 5 reprises. Le pape François exprime sa honte après les révélations sur l'ampleur de la pédocriminalité dans l'église catholique en France. Au moins 330 000 mineurs agressés sexuellement depuis les années 50. La météo demain, on aura à nouveau une belle journée. Quelques nuages tout de même sur le nord-est et le nord-ouest en matinée avec quelques pluies, un peu de grisaille entre les deux. Dans le sud, un grand soleil qui gagnera une bonne partie du pays dans la journée, sauf entre la Bretagne et la Manche où ça restera couvert. Les températures, elles, seront stationnaires. La course du Quintet pour finir, c'était à Angers. L'arrivée provisoire, le 16, le 8, le 5, le 3 et le 7. RTL, 14h02. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
Merci Sébastien. Les gens ont été un peu surpris parce qu'effectivement, il y avait une messe à Saint-Germain-des-Prés. Il y en aura encore une messe demain. Les obsèques ont été célébrées ce matin dans l'église catholique. Il ne peut pas y avoir 2 sacrements. Donc les obsèques ont été célébrées ce matin. J'étais dans l'église. Et demain, c'est une messe. Je ne peux pas vous dire exactement ce que sera exactement cette messe. Si c'est une messe d'hommage, dans quelles circonstances elle sera dite. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir à 24 heures d'écart 2 messes, sachant que, je le répète, dans le rite catholique, on ne peut célébrer les obsèques qu'à une reprise. Il est 14h02. Je remercie Sébastien Rouxel.
Merci.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Nous sommes donc avec Eric qui est commercial. Bonjour, vous habitez le Puy-de-Dôme.
Absolument. Bonjour, monsieur Pro.
Votre sentiment sur... vous dites la vraie droite. C'est quoi la vraie droite, selon vous ?
Alors, bon, la droite, en règle générale, on sait à peu près de quoi il s'agit. Hein. C'est quelque chose de libéral, c'est quelque chose de conservateur, c'est quelque chose d'un peu traditionnel. Et il y a aujourd'hui non plus la droite, mais les droites, on le sait. Et ce clivage qui nous a fait passer de la droite à les droites vient de la façon d'aborder les questions identitaires, les questions nationales, les questions souveraines. Et je crois qu'aujourd'hui, les sondages, on sait, vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il faut toujours les prendre avec beaucoup de retenue et beaucoup de pincettes. Mais ces sondages favorables traduisent dans l'opinion publique la présence d'une certaine partie de la population qui est extrêmement sensible au discours de Monsieur Zemmour et notamment au discours identitaire et sécuritaire. Et je crois qu'aujourd'hui, Éric Zemmour aura au moins eu, si toutefois il n'est pas candidat, il aura au moins eu cette faculté, mais c'est de quelque part de libérer la parole, de décomplexer le dialogue sur ces sujets, d'enfin appeler un chat un chat. Et je crois que c'est là qu'il obtient cet écho au sein de la population, sachant que on peut dire effectivement, on l'entend, hein, il a ramassé au sol le flambeau qu'avait laissé tomber peut-être Marine Le Pen, c'est possible.
Alors vous dites les droites, c'est marrant d'ailleurs parce que ça rejoint vous savez, les trois droites qu'avait conceptualisé René Raymond, qui était un célèbre historien. Donc il y avait la droite légitimiste, il y avait la droite orléaniste et libérale, et il y avait la droite bonapartiste.
Bon. Oui, oui.
Donc je ne sais pas d'ailleurs dans quelle catégorie vous placeriez Éric Zemmour. La droite de bonapartiste, c'est celle de Napoléon III, hein, qui met l'accent c'est sur ça. Le rôle d'un chef, sur la faiblesse des corps intermédiaires et sur le recours au peuple avec recours au référendum. Ça, c'est De Gaulle, c'est Sarkozy d'une certaine manière. Est-ce qu'Éric Zemmour va dans ce registre-là ? C'est intéressant de lui demander.
On pourrait, c'est vrai qu'on sait que c'est un admirateur de Napoléon, mais à bien l'écouter, j'aurais tendance à le classer plutôt au sein de la droite plutôt légitimiste. Mais en tout cas, qui aura eu au moins cette qualité, c'est de redéfinir le débat, de planter le débat et de faire enfin comprendre. J'entendais tout à l'heure un de vos auditeurs qui disait « mais il ne parle pas de l'écologie ». Alors, effectivement, non, il ne parle pas de l'écologie, ou peu, mais je pense qu'il s'adresse dans l'urgence aux Français, et il aborde les sujets qui sont des sujets d'urgence pour les Français. Aujourd'hui, aborder le sujet de l'écologie avec des projets à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans pour le bien de la planète, allons dire ça à quelqu'un qui est devant sa télévision, dans sa cité, et qui se demande simplement comment il va faire dans 10 minutes pour traverser la cage d'escalier pour aller dans le parking jusqu'à son auto. Et vous verrez que cette personne-là, il est complètement étranger aux notions d'écologie. Il est attaché à des notions qui lui sont beaucoup plus proches, beaucoup plus immédiates. Et c'est de ces notions-là que Éric Zemmour fait état. Et il dit, il prétend, il annonce qu'il existe des solutions, que ces solutions, il faut avoir le courage de les regarder en face, le courage d'aborder les problèmes avec la volonté de les résoudre et pas seulement être tout le temps et chaque fois dans l'incantation, dans la compréhension de l'autre, etc. Ce qui est normal et nécessaire. Mais il annonce qu'il est possible de trouver une voie qui permette de se soustraire à un certain nombre de problèmes qui aujourd'hui sont le principal du quotidien de beaucoup de nos concitoyens.
Bah écoutez, merci. Et vous avez déjà fait votre choix pour le vote ?
Non, pas encore. Moi, je trouve que Monsieur Zemmour, je trouve qu'il est efficace en tant que polémiste, efficace en tant qu'historien, pourquoi pas, que journaliste aussi. Je trouve presque dommage qu'ils doivent comme ça se charger de ce fardeau et sortir du bois pour aller faire finalement ce que aucun politique aujourd'hui n'est en mesure de faire à part lui. Moi, j'aurais aimé qu'il reste en marge, qu'il regarde ça de l'extérieur, qu'il donne des conseils avisés aux politiciens dont c'est le métier et qui auraient pu s'emparer de ces thèmes avec le même talent. Mais je crains bien qu'il n'y en ait pas d'autres. C'est le résultat des sondages, je crois qu'il est là. Il y a un désaveu de la classe politique, on le sait, dans ce pays. Et aujourd'hui, je trouve presque dommage que quelqu'un comme M. Zemmour apparaisse comme l'homme providentiel alors qu'il n'est pas du sérail politique.
Bah merci Eric, merci beaucoup de votre analyse. On marque une pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je crois que nous allons changer de sujet, cher.
Et je vous le confirme, Pascal, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle, propose de baisser les taxes sur le carburant. Écoutez la réaction ce matin du ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Je note l'incohérence complète de la proposition d'Anne Hidalgo qui, à la fois, veut accélérer la transition écologique et qui propose, en gros, de subventionner les énergies fossiles. Mais on n'est pas une incohérence près dans cette campagne électorale.
Et ne manquez pas tout à l'heure dans RTL Soir à 18h, le débat entre Anne Hidalgo et Pierre Chasseret, que vous connaissez bien, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.
Je vous assure, je suis à Paris depuis 1986 et dans la journée, je suis assez peu dans les rues. Mais aujourd'hui, j'étais dans les rues de Paris parce que je suis allé à l'enterrement de Bernard Tapie à la messe d'obsèques, donc de Saint-Germain-des-Prés. Je suis venu ici. Je suis venu en taxi-moto parce qu'autrement, évidemment, je n'aurais pas pu être à l'heure. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que sur les quais, les voitures sont à touche-touche. Et c'est normal puisque les voies ont été divisées par deux. Et vous avez une voie pour les vélos qui est libre, parce qu'à des vélos à 11h du matin, il n'y en a pas. Et vous, tout est sur une seule file. Et pour revenir de Saint-Germain-des-Prés, mais les gens qui sont dans Paris, dans les embouteillages, ça doit être insupportable pour eux, puisque rien n'avance. Vous mettez une heure pour faire 3 km. Il y a toujours eu des embouteillages à Paris. Mais ce que je vis aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, est invraisemblable. Entre les travaux, en plus le palais de justice qui est fermé pour procès que l'on connaît, c'est juste l'enfer et je plains. Il y a sûrement des Parisiens qui nous écoutent en ce moment, qui sont dans leur voiture. Je vous plains. Voilà, je suis avec vous. Si vous voulez nous appeler, vous pouvez appeler au 3210 dans votre voiture. On vous plaint. Vous êtes dans un embouteillage en train de klaxonner. Prenez du temps. Prenez votre mal en patience, comme on dit. Bonjour David.
Bonjour Monsieur Pro.
Bonjour David, vous habitez Le Mans.
Oui, c'est ça.
Qui est célèbre pour les 24 heures, notamment, et pour les, j'allais dire pour la vitesse. Vous êtes, le prix des carburants qui augmente, c'est un sujet évidemment qui vous préoccupe en premier lieu.
Bah oui, en premier lieu, parce que ça n'arrête pas d'augmenter. Là, ça a augmenté de 7 centimes en une semaine. Hein. La semaine dernière, par chez moi, il était à 1,40€. Là, il est à 1,47€.
Vous parlez pour le 95.
Le diesel.
Le diesel est mais maintenant entre le diesel et l'essence, il y a quasiment plus de différence.
Si, il y a 20 centimes d'écart.
Quand même.
Bah oui, parce qu'en fait l'État avait dit qu'il ferait la chasse au diesel parce que maintenant le diesel, il y a 20 ans on a mis les gens au diesel en disant que c'était plus économique, plus écologique et c'est ce qui revenait moins cher et avec ce qu'on faisait le plus de kilomètres. Et l'État ils ont dit bon maintenant on fait la chasse au diesel, au carburant diesel, gasoil parce que c'est ce qui pollue le plus, c'est ce qui a le plus de microparticules, tout ça. Et en fait, au lieu d'augmenter, quand ils augmentent le diesel, ils augmentent aussi le prix de l'essence.
Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire une manifestation le 13 novembre ?
Moi, ça tombe bien, parce que je travaille dans le carburant. Je dis d'ailleurs bonjour à mes collègues qui sont sûrement sur la route. Moi, je me suis bloqué le dos, je suis en arrêt maladie, enfin bon, bref. Et moi, je travaille dans le carburant. Je livre tous les jours entre 2 et 3 citernes de carburant. Dans ma citerne à moi, je livre 38 000 litres de carburant. 38 000 litres, sur les 38 000 litres, nous, quand on charge, 80% des 38 000 litres, c'est des taxes qui vont à l'État. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le comparatif entre plusieurs pays. Bon, moi, j'ai un ami qui est algérien. Moi, il m'a dit, quand je vais en Algérie, le diesel, je paye 0,15 centimes du litre. Et vous pouvez regarder, à l'heure actuelle, en ce moment... Là
vous m'étonnez quand même, je vais vérifier tout de suite, parce que... C'est très faible, un prix de l'essence en Algérie, 0,15 vous dites ?
Eh bien entre 0,17 et 0,25 aujourd'hui. Le prix de l'essence, là c'est l'essence aujourd'hui.
Oui.
Entre 0,17 et 0,25%. 0,25 euros. C'est le prix exact en ce moment du tarif en Algérie, parce que j'ai un copain qui est algérien.
Ouais, cette année, pour acheter un litre d'essence en Algérie, le coût est de 0,25 centimes d'euros. Ce tarif étant une moyenne, il peut baisser jusqu'à 0,17 euros et grimper jusqu'à 0,29. Selon la période et la ville, ce prix pour un litre d'essence est moins cher que le tarif pratiqué en moyenne en France. C'est moins 82%, effectivement.
Moins 82%. Donc les 82%, c'est les taxes que l'État nous prenne. Donc ben, à un moment, il faudra peut-être arrêter. J'entends le Premier ministre à la télé, parce que en ce moment, tout ce qui est énergie, tout ça, ça augmente à des tarifs l'électricité, tout ça. Donc on donne des chèques et on choisit. Donc on met encore une partie de la classe sociale des Français. On choisit une partie sociale, donc des gens qui n'ont pas des gros revenus, tout ça. Mais nous, la classe sociale normale, on n'a pas de chèque prime énergie à 100 euros. Pourquoi plus les uns que les autres?
Donc le 13 novembre, vous allez faire une manifestation?
D'après ce que j'ai entendu, d'après mes collègues, d'ailleurs j'espère qu'il va y avoir cette manifestation-là, parce qu'il faut que les routiers, parce que moi, vous savez, je me lève tous les matins à 4h du matin, je rentre souvent chez moi à 18h, 19h le soir, je fais entre 200 et 240 heures par mois de travail, donc c'est-à-dire que je passe avec trois quarts de ma vie dans mon camion, au lieu de les passer avec ma femme, mes enfants... Et vous savez que le tarif, moi, mon tarif horaire, c'est combien?
J'imagine qu'il est assez faible avec le nombre d'heures que vous faites.
11,05 en brut, vous enlevez 25%, ça fait 8,25 euros. Ouais. Et à un moment, vous voyez, en Angleterre, ils sont en pénurie de chauffeurs. Ils sont passés en ce moment, d'après les informations que je regarde et je suis beaucoup Internet aussi, ils sont à 22 euros de l'heure. Je pense qu'à un moment, sans le transport routier, si on veut vraiment baisser le prix des carburants, je pense que les chauffeurs routiers, tous ceux-là qui transportent du pétrole, va falloir qu'ils laissent les camions au dépôt ou faire des opérations escargots pour que au moins l'État ou le gouvernement puisse nous écouter, quoi. Parce que il y a un moment, si les chauffeurs ils bloquent, ça va rendre service aussi aux Français. Parce que le prix du carburant en ce moment, vu comme il est à la hausse, c'est pour ça aussi que les aliments en grande surface ils augmentent. Parce que
Olivier,
forcément, le prix du transport, il augmente. Le coût du transport, il augmente. Donc tout ça, c'est répertorié sur l'alimentation, sur les prix des pneus, sur le prix de tout ça, quoi.
Merci, David. Olivier est avec nous pour la page Facebook.
Didier s'énerve sur notre page Facebook. Après avoir voulu interdire les voitures en ville, elle annonce qu'elle baisserait les taxes sur le carburant.
De qui parlez-vous?
De Madame Hidalgo, exactement.
Oui, on était sur le carburant.
Exactement, exactement. Pour Thierry, elle fait cette annonce uniquement pour récupérer des électeurs. Elle ne le pense pas une seule seconde et à l'inverse.
C'est démagogique, c'est étonnant. D'ailleurs, c'est électoraliste, on va dire. Pas démagogique, mais électoraliste.
Et à l'inverse, Françoise nous écrit enfin une vraie mesure de Madame Hidalgo. Les prix des carburants représentent un budget mensuel colossal.
Alors ce soir, ça va être très intéressant. Il faut saluer vraiment Madame Hidalgo qui va se confronter à Pierre Chasseret. Pour un débat, vous savez, qui représente les automobilistes, 40 millions d'automobilistes, donc ça va être vraiment passionnant. Et bravo donc à Madame Hidalgo, parce que la confrontation va peut-être naître un modus vivendi, comme on disait jadis. Et pourquoi pas une manière de fonctionner ensemble et de s'écouter les uns les autres entre les automobilistes et puis ceux qui veulent réduire la part de l'automobile dans la ville. Nous marquons une pause. Monsieur Boubouk, on ne vous revoit plus avant demain, c'est fini ou vous intervenez encore avant
l'émission? Je pense que ce sera fini.
Écoutez, Pascal,
Pascal
juste au ton de votre voix, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie, donc moi je n'interviens plus.
J'ai toujours envie quand je vous vois, monsieur Boubouk.
Bon, ça va, j'ai eu peur.
Ah, bon, écoutez, vous êtes formidable. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On va terminer les auditeurs avec le père Nicolas. Bonjour monsieur l'abbé.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent parce qu'ils sont un peu perdus. Il y a la célébration des obsèques de Bernard Tapie qui a eu lieu ce matin en l'église de Saint-Germain-des-Prés. Et demain, il y aura une messe à Marseille. Mais dans le rite catholique, il ne peut exister deux messes d'obsèques. C'est-à-dire que les obsèques, c'était ce matin avec tout le rite catholique. C'est-à-dire que le cercueil est entré dans l'église. Or, demain, s'il s'agit d'une nouvelle messe, ou après-demain d'ailleurs à Marseille, c'est un rite différent, c'est une messe dite d'hommage.
Voilà, c'est ça. En fait, quand à cause de la distance ou du très très grand nombre de personnes qui pourraient être présentes ou de l'importance de celui qu'on accompagne, il peut arriver qu'en fait il y ait une messe de funérailles et en plus une messe du souvenir, une messe d'hommage. Vous voyez, comme par exemple, ça, alors toute proportion gardée évidemment, mais comme ça s'est passé pour le général de Gaulle, il y avait eu un grand service à Notre-Dame de Paris et puis des funérailles à l'église de Colombey-les-Deux-Églises, ou pour François Mitterrand, il y avait eu aussi un grand service à Notre-Dame de Paris et puis des funérailles à l'église de Jarnac qui qui était l'église de son village natal. En fait, voilà.
Mais la présence du cercueil ne peut pas être à deux reprises dans une église, nous sommes d'accord. Je ne dis pas de bêtises.
Si vous voyez, ça peut arriver, par exemple, si on rapatrie un corps de très loin, oui. Ça arrive de temps en temps dans nos paroisses, il peut y avoir un service en présence du cercueil là où la personne est morte, et puis ensuite un service plus simple là où elle va être enterrée. Au moment où on va accueillir le cercueil.
Ah oui, donc dans ces cas-là, effectivement, les gens peuvent penser qu'il y a deux messes d'obsèques.
Voilà, mais en fait, il y a une messe d'obsèques et puis une autre messe qui peut être célébrée en présence ou pas du cercueil du défunt.
Moi j'ai sous les yeux la messe d'obsèques de Bernard Tapie qui était distribuée à tous ceux qui étaient dans l'église tout à l'heure. Donc elle a commencé par un chant d'entrée, un mot d'accueil par le célébrant, il y a eu des témoignages des proches, le rite de la lumière, le rite pénitentiel, tout ça est dans le rite liturgique catholique. Mais l'homélie, il y aura une homélie de nouveau dans ces cas-là, il peut y avoir une homélie de la même manière.
Ah bien sûr, il peut y avoir une homélie de la même manière. Oui. Et on peut
écoutez,
célébrer...
merci, vous nous avez donné des renseignements que nous ignorions. Alors c'est vrai qu'il y a une très grande parenté en fait entre ces deux messes, et pour celui qui est dans l'église, je ne suis pas certain qu'il perçoive la différence, mon père.
Mais est-ce que c'est important ?
Non, vous avez raison.
L'important, c'est que les amis puissent se réunir et puis porter ensemble celui qui les aime dans la prière et dans l'affection.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Il est 14h24, le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a fait réagir. Un sondage donne pour la première fois Éric Zemmour qualifié au second tour de la présidentielle. L'étude Harris Interactive a été publiée dans la matinée.
17% pour Éric Zemmour et 17% désormais. Donc c'est mieux que Marine Le Pen qui chute à 15%. Les dynamiques sont totalement inverses puisque dans un sondage du même institut, il y a une semaine à peine, Éric Zemmour était à 13% et Marine Le Pen encore à 16%.
Éric Zemmour, deuxième, quel que soit le candidat de la droite, il est encore loin d'Emmanuel Macron. David, au 32-10, apprécie le polémiste.
Même moi, qui pourtant adhère à ses propos et à ses idées en la majorité, n'imaginez pas une seule seconde qu'il puisse non seulement avoir 15%, 16%, 17% aujourd'hui, mais en plus être qualifié au second tour devant Marine Le Pen.
Et aujourd'hui, vous étiez aussi bien énervé, comme Philippe, son avis sur Éric Zemmour.
Il a aucune carrière politique. Le gars, il est méchant. Toutes les chaînes de télé, machin, on dit.
Christian est très cash avec le polémiste, hein, ce n'est pas sa tasse de thé.
Moi, j'ai dit que monsieur Zemmour, si on parle cru, c'est un fou la merde.
Je vous confirme que vous parlez cru, mais encore.
Je parle cru, oui.
Et aujourd'hui dans l'émission...
Monsieur Sportouche.
Eh bien voilà, vous m'avez réclamé.
Monsieur Sportouche, chef du service politique de RTL. Alors là aujourd'hui, tout le monde en a pris pour son grade. Oui, exemple avec Jean-Daniel Lévy de l'Institut de sondage Harris Interactive qui donne Éric Zemmour à 17% d'intention de vote.
Très franchement, Jean-Daniel Lévy, la marge d'erreur est de 2 points. Vous auriez pu les mettre à égalité aujourd'hui, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Vous auriez pu.
Le mettre en tant que tel, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ce que
mais qu'est-ce que vous voulez dire, Benjamin?
Non, mais vous auriez.
Vous voulez dire que Harris valorise son sondage en mettant numéro 2.
Et vous aussi, Pascal, vous étiez dans la ligne de mire de Benjamin.
Et vous parliez de Donald Trump, je voyais votre enthousiasme, mais attention.
Ah, vous êtes gonflé, mon enthousiasme. Alors si vous me traitez de Trumpiste, alors là.
Et il est très coquin, ce Benjamin.
C'est pas les mêmes types de personnalités. Il y en a un qui est un intellectuel cultivé, l'autre c'était, il n'avait pas lu un roman de sa vie et il était milliardaire. C'est pas le même type de personnalité quand même.
Mais vous êtes une love, Pascal.
C'est-à-dire ?
Avec Éric Zemmour.
Je suis pas.
Ah, mais c'est vrai. Quelle relation avez-vous, tiens, Pascal, avec Éric Zemmour ?
Tous les jours, je le titille. Tous les jours, je le titille. Parce que c'est d'abord, c'est mon tempérament.
Je vous en prie, j'ai envie de vous dire...
Cela ne nous regarde pas.
Oui, après toutes ces attaques, Benjamin Sportouche a voulu s'en aller plus vite que prévu.
On marque une pause avant d'y aller.
Bon.
Mais pourquoi vous y allez à 13h? À chaque fois que vous venez, vous voulez partir. Vous n'êtes pas venu dans ce studio que vous êtes déjà dehors. Vous restez avec nous, il est 13h37, c'est une émission passionnante. Ce que dit Philippe est très intéressant.
Faut que j'aille.
Il dit, il faut plus interroger les Français sur beaucoup...
Benjamin Sportouche a des choses à faire. Et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec notre message d'amour destiné forcément à Benjamin Sportouche. Il est vraiment...
vrai qu'il est remarquable, Benjamin Spartouche, il nous éclaire sur cette vie politique comme va nous éclairer sur
le
la vie
phare,
du crime.
Le phare de la politique.
Le phare breton.
Et voici, et ouais, très bon.
Bonjour.
Et voilà,
c'est
très bon.
C'est très bon,
excellent.
C'est
la garde. L'affaire Magali Blandin, disparition et puis un crime en famille, pourrait-on dire. Tout de suite, dans l'heure du crime.
À tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic